Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, compères aidants et compères tinantes. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde très curieuse de ce lundi 20 octobre. Aujourd'hui, on entame la saison 2 de notre complicité avec les compagnons de l'écho de la Réhab, ce collectif ouvert à tous du service de réhabilitation psychosociale de l'hôpital Sainte-Marie de Privas, avec une nouveauté cette année, ou peut-être même deux. La première, c'est la régularité, on se retrouvera tous les deux mois, tous ensemble. Et puis surtout, la deuxième, c'est que pour donner à entendre encore plus justement ce qui se trame dans les ateliers de l'écho, vous avez eu envie d'inviter autour du micro une personnalité avec laquelle vous souhaitez dialoguer pour que germent encore et toujours de nouvelles graines inattendues et qu'émergent des chemins ouverts, des sortes de clairières. Aujourd'hui, on va donc parler de père aidance avec Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Mais également avec vous tous et toutes, Sylvie, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Agnès, salut.
Bonjour Sophie.
Bienvenue, Jérémy.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Et Kevin.
Bonjour.
Et j'allais oublier Sylvain. Bonjour Sylvain.
Salut.
Alors, on est là, peut-être la première question à vous tous, pourquoi vous avez voulu que Laurence vienne nous parler la père aidance? Ah, grande question. Qui veut prendre la parole, Agnès?
Oh, alors pourquoi? Parce que c'est quelqu'un avec qui on aime beaucoup travailler, échanger. Et là, c'était l'occasion, en fait, d'échanger différemment. Mais c'est vrai que tu as une place vraiment très importante aussi parmi nous, même si tu viens pas régulièrement à l'écho de la Réhab. Voilà, on est vraiment très en lien, donc je pense que c'était la raison principale.
Mmh. Kevin, tu veux ajouter quelque chose?
L'idée de cette nouvelle saison, c'était d'inviter quelqu'un, et c'est vrai que on a pensé à Laurence parce que déjà, à l'écho de la Réhab, c'est un laboratoire de la père aidance, et on en parle beaucoup sans forcément le nommer. Et donc c'est un sujet qui nous tient très à cœur. On a voulu démarrer par là. Mmh. Voilà.
Alors la père aidance, qu'est-ce que c'est, Laurence?
Alors, qu'est-ce que c'est être père aidant?
Ouais.
Alors un père, c'est quoi déjà? Un père, alors déjà, c'est pas quelqu'un avec qui on a une filiation. Non, c'est pas ça. C'est pas ce père-là. C'est un autre, c'est un père PAIR. C'est en fait une personne qui a en gros une expérience en commun avec nous. Alors par exemple, si t'es animatrice de radio, peut-être que les autres animateurs de radio, c'est tes pères en animation de radio. Et moi, il se trouve que j'ai une expérience qui a beaucoup marqué ma vie, c'est l'expérience des troubles psychiques. Et du coup, les personnes qui ont des troubles psychiques, de façon assez proche de la mienne, c'est mes pères. Et du coup, quand tu décides d'aider tes pères à avancer dans leur chemin de rétablissement, parce que toi, t'as fait ton petit chemin de rétablissement et t'as appris des tas de choses au passage, et tu te dis, mince, j'aimerais bien que les personnes qui commencent leur chemin ou qui sont depuis un moment, mais qui galèrent peut-être, peut-être que je peux être aussi un élément dans leur parcours pour les aider en partageant mon expérience. Mmh. Parce que cette expérience, elle est rare, en fait. C'est pas une expérience commune. Passer son permis de conduire, c'est une expérience assez commune. Mais avoir un trouble psychique, c'est pas une expérience si commune que ça dans un pays, même si, au final, ça touche quand même beaucoup de gens. Mmh. Un pourcentage non négligeable de la population. Mais malgré tout, ça reste une expérience un peu rare. Et du coup, c'est précieux de pouvoir partager cette expérience-là. Parce que, en fait, même les gens qui travaillent là-dedans, qui sont soignants, par exemple, en psychiatrie, ils n'ont pas, eux, forcément l'expérience, et du coup, il y a des choses qui leur échappent. Et du coup, c'est très précieux de pouvoir partager ça et de se renforcer mutuellement.
Alors, oui, pas forcément. Donc, père aidance, Kevin, tu disais tout à l'heure, on en parle beaucoup. Alors, on en parle peut-être beaucoup maintenant, mais ça a eu une histoire, on n'en a pas parlé beaucoup tout le temps. C'est finalement assez récent, quoi. C'est né dans les années 70 aux États-Unis, mais en France...
Alors, en France, on a une histoire contrastée. Parce qu'en fait, la père aidance, elle peut naître assez spontanément partout. Il y a des gens qui, ensemble, se retrouvent à se rendre compte qu'ils peuvent s'aider. Voilà. Donc ça peut naître spontanément. Voilà. Et il se trouve qu'en France, la première fois vraiment qu'on en a une trace historique, c'est à la fin du 18e siècle, début 19e, au moment où il y a un gars qui s'appelle Pinel. Il a inventé la psychiatrie, c'est le papa de la psychiatrie, c'est le premier médecin qui a dit on peut soigner les gens, que ça ne va pas dans leur tête. Et il se trouve qu'il a mis ça en place parce qu'il s'est beaucoup appuyé sur un gars qui était malade dans son hôpital et qui est devenu... en fait, un travailleur de son asile. Il s'est beaucoup inspiré de cette personne. Et notamment, leur action, ça reposait sur le fait d'impliquer les gens dans les soins des autres personnes, par exemple. Et sur plein d'autres choses, et notamment sur l'idée que le rétablissement était possible. Et donc, en France, on a eu ça. Et puis, il s'est passé un truc, c'est qu'on l'a complètement oublié. Mais alors, complètement oublié. Mais totalement. Et du coup... Il a fallu très longtemps, et qu'il y ait des influences qui nous reviennent deux siècles plus tard d'un autre partie du monde, c'est-à-dire des pays anglo-saxons, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Il a fallu qu'il y ait des expériences à partir des années 70, et même avant, hein, parce que dans les années 30, il y a eu les alcooliques anonymes qui sont créés, par exemple. À la fin du 19e siècle, il y a eu des clubs d'alcooliques dans les pays anglo-saxons, etc. Donc, en fait, il y a des expériences anciennes.
La chose existait, mais le concept en tant que tel n'était pas encore formalisé, peut-être.
Alors, le concept n'était pas formalisé. Et puis, surtout, en santé mentale, il est arrivé un petit peu plus tard qu'en France, que dans les addictions ou dans le secteur du sida, par exemple. Dans les années 80, on faisait de la pérédance dans le domaine de la prévention du sida, par exemple. On en a fait aussi dans le domaine de l'usage de drogue. Et puis, la pérédance, ça peut se faire dans des tas de domaines de santé, en fait. Mais en santé mentale, pour que vraiment on reconnaisse que ça existe, il a fallu attendre les années 2000. Ça a commencé à se reconnaître que ça peut exister. Il y a eu des groupes d'entraide mutuelle qui ont été créés par la loi en 2005. Et puis, pour vraiment que ça devienne quelque chose où on a pu se dire « mais c'est peut-être pas seulement une activité comme ça entre les personnes, mais c'est peut-être aussi quelque chose où on peut en faire un vrai travail, voilà, dans la société, dans le monde du travail, en psychiatrie, etc. » Il a fallu attendre les années 2010. Et c'est véritablement depuis les années 2010 que c'est reconnu, petit à petit d'ailleurs, comme une vraie profession. Et encore, il faut qu'on se batte pour que ça soit vraiment reconnu, encore.
Et est-ce que toi ou les autres ici autour de cette table, vous avez une idée de pourquoi ça a mis tant de temps à être reconnu? Pourquoi la pérédance dans la psychiatrie a été si longue à être connue?
Parce que c'était très tabou avant de parler de maladie mentale. Et la pérédance, elle était très méconnue parce que c'était... une toute nouvelle innovation.
Ouais.
Et puis les personnes en situation de handicap qui demandent encore à l'heure actuelle à être reconnues comme telles, c'est-à-dire prises en compte avec leur maladie psychique. Mmh. Et je pense que ça prend du temps parce que c'est pas écrit sur notre front, la maladie psychique. Et donc, les soins ou l'aide en père aidance, puisqu'on différencie des soignants des pères aidants, je veux dire par là que déjà la maladie psychique en elle-même a du mal à être reconnue. D'ailleurs, la MDPH se bat pour que on soit nommé des personnes en situation de handicap, de même que les personnes en fauteuil roulant ou qui ont des atteintes physiques corporelles.
Donc pour vous, c'est quelque chose de plus global, en fait. C'est lié à justement cette difficulté, peut-être, d'appréhender, ou peut-être cette peur, je ne sais pas.
Oui, sûrement. La maladie mentale. Je pense que le fou, entre guillemets... c'est toujours l'autre. Et que peut-être que ça participe aussi... c'est pas évident, en fait, de se reconnaître chez cet autre si on a cet a priori. Et Nous, ça nous semble assez naturel, en fait, de partager du commun. Mais peut-être pas tant que ça, en fait. Et je me disais, on s'interrogeait dans la voiture, là, de... qu'est-ce que ça produisait à l'hôpital, en fait, puisque maintenant, il y a des pères aidants là, qui commencent à... Enfin, c'est les, à Sainte-Marie, en tout cas, à Privas. C'est un début. Et du coup, voilà, on se disait, mais qu'est-ce que ça produit au sein des équipes? Et ouais, je pense que ça fait vraiment bouger les lignes. Et du coup, c'est, ben, c'est pas si facile, en fait, même s'il y a un désir. Il y a beaucoup de résistance aussi, de réticence, enfin, voilà, de choses comme ça, dans la tête de, enfin, de tout le monde, en fait, on est tous...
Et pourquoi? Parce que ça remet en question le sachant et celui qui ne sait pas, ou que c'est une question de, d'égal à égal, ou de... Ça vient...
Oui, on peut dire qu'il y a plusieurs choses, en fait. Ça bouscule la hiérarchie des savoirs, surtout dans un monde qui est un petit peu, comment dire, soit élitiste, soit académisé, où on considère que, voilà, il y a certains savoirs qui valent plus que d'autres. Et du coup, bah, le savoir issu de l'expérience... un père aidant, pour qu'il soit reconnu comme professionnel, il faut qu'on reconnaisse la valeur de son savoir issu de l'expérience. Et du coup, par rapport au savoir, on va dire, appris sur les bancs de l'université. Et du coup, bah, c'est une vraie évolution de la façon de penser un métier. Même si dans les faits, un père aidant professionnel, en réalité, il mélange les savoirs, en fait. Il mélange à la fois des savoirs académiques et qu'il va apprendre en formation professionnelle ou à la fac ou dans d'autres types de formations. Mais il mélange ça à son savoir issu de l'expérience. Mais ce qui fait sa spécificité, c'est ce savoir-là. Et puis, il y a d'autres soucis. Il y a des questions de statut. C'est-à-dire que dans la tradition médicale, il y a une frontière hermétique entre le patient et le soignant. Et en fait, on vient, en tant que père aidant, on vient bouleverser les frontières. On vient remettre en question ces lignes-là en disant, bah, en fait, je peux être un usager du système de soins ou un patient d'une équipe soignante, et à côté de ça, jouer un rôle de professionnel également dans le monde soignant. Mmh. Et ça, c'est extrêmement perturbant au départ. Pour beaucoup de professionnels, il faut du temps pour qu'ils acceptent, en fait, que c'est possible. Et que, aussi, c'est pas parce qu'on a un handicap psychique ou un trouble psychique qu'on n'est pas compétent, qu'on ne peut pas être compétent en un domaine professionnel. Et aussi que c'est pas parce qu'on a un trouble psychique qu'on n'est pas capable, comment dire, de faire preuve d'adaptation face aux souffrances des autres personnes qui ont des troubles psychiques. Il y a souvent cette peur aussi d'une fragilisation au contact de la souffrance d'autrui. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que derrière ces freins ou ces peurs, il y a souvent les peurs des soignants pour eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que ça vient mettre le doigt sur leurs propres difficultés, leurs propres résistances. Et du coup, quand ça se passe bien, ça ouvre la voie aussi pour les soignants à une réflexion sur leur rapport à leur travail. Donc ça peut être très bénéfique, mais il faut que ça soit accompagné, parce que sinon il y a un risque que ça ne se passe pas bien. Ça peut aussi provoquer des levées de boucliers.
Justement, Agnès, toi tu es soignante, en partie.
Oui, en partie, on va dire, faire simple, en fait.
Non, mais tu es aussi...
Je suis à partie de l'équipe soignante. Voilà, tout à fait. Mais oui, c'est ce dont je voulais, ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, ça. Et c'est vrai que souvent, on est amené à rappeler, en fait, que quand on est soignant ou en situation de faire de sa profession, en fait, l'aide vers l'autre, enfin bon, voilà. Eh bien, effectivement, il y a bien la question de cette vulnérabilité qu'on vient réparer, même si ça prend des chemins différents pour chacun, et que c'est une porte ouverte, donc je suis en train de l'ouvrir à nouveau, mais en même temps, on sait tous qu'il y a cette vulnérabilité qui fait qu'on a choisi ce métier, et en même temps, on s'en défend, en fait, beaucoup, quoi. Et souvent, on est obligé de se le rappeler entre nous, en fait, quand un de nos collègues, par exemple, va moins bien. C'est déstabilisant, en fait. Et du coup, là aussi, ça rappelle, en fait, cette vulnérabilité. C'est une autre forme, quoi. Et bon, voilà, donc c'est des questions qui sont là et voilà, ils ne sont pas si simples, en fait.
Et j'ai envie de poser une question, parce que là, tu mets le doigt sur la vulnérabilité qui est commune à tout être humain. Alors, quel est le... Est-ce que finalement, peut-être je vais mettre le curseur trop loin, mais est-ce que ce qu'on appelle les soignants habituels ne sont pas eux aussi finalement des pères aidants, mais qui ne se l'autorisent pas ou qui ne se le disent pas forcément ? C'est-à-dire que est-ce que en puisant eux-mêmes dans leur expérience de vulnérabilité, ils ne pourraient pas faire ce travail ? Sylvie.
On dit qu'on ne choisit pas un métier par hasard, déjà. Pardon, une profession. Ouais, une profession. Et puis, pour venir à ce que disait tout à l'heure Laurence, moi j'ai été scotchée quand Kevin a pris son poste à Sainte-Marie en tant que père aidant, parce que je me suis dit, pétard, en tant que lui-même patient, pouvait être salarié dans le cadre d'une institution. Et j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Et puis, je tiendrai à dire aussi qu'il y a l'écoute, l'échange, en tant que patiente bénéficiaire, moi, de père aidance, je peux dire que je rappellerai le slogan de la CGT, pardon, « Plus d'écoute, moins de gouttes ». C'est vrai. Et donc, c'est un métier, une profession... mais c'est beaucoup d'apport, même s'il y a du mal à faire la différence entre soignant, non soignant. Je parle de mon point de vue en tant que patiente. Voilà.
Sylvie, ça m'a donné envie d'écouter, parce que tu parles d'écoute, le texte de Carole.
Désert. Parfois j'écris des textes que j'envoie dans le désert. Désert humain, c'est désolant. Personne ne me comprend. Parfois j'y crois quand même, mais je vis sur une île. Ermite et hermétisme vont bien ensemble. Au bout du compte, je suis peut-être bien sur mon île. Parfois je ne saisis pas vraiment les relations humaines, mode d'emploi. Peut-être ai-je passé l'âge d'être comprise et reconnue. Mais quand même, c'est fou d'être comme hémiplégique, d'avoir qu'une moitié de soi, pour parler à l'autre. En fait, il ne faudrait plus que je parle, mais que j'écoute en m'oubliant. Si on ne m'entend pas, ce serait qu'on ne me transgresse pas. Il est vrai que vivre avec des pensées, c'est vivre profané par ceux qui transitent. Alors le désert, l'île, c'est peut-être une protection. Ceux qui ne comprennent pas, ce seraient ceux qui me respectent alors. Carole.
Grande question, Carole. Ceux qui ne me comprennent pas seraient-ils ceux qui me respectent ? Je vais vous laisser avec ça. Tu veux réagir, Jérémy ?
Oui, alors, ceux qui respectent, c'est ceux qui... ils ne voient pas forcément tout de suite la personne comme une personne en situation de handicap psychique, mais en tant que personne humaine avant toute chose.
Kevin, je me tourne vers toi pour que tu partages, si tu le veux bien, un peu ton expérience de père aidant. Qu'est-ce que ça a modifié, toi, dans ton parcours alors de rétablissement ? J'aimerais simplement qu'on redise ce qu'est le rétablissement, parce que pour les personnes qui ne sont pas forcément familières de ce cadre médical...
Le rétablissement, déjà, c'est une dynamique vers un mieux-être.
Mais qui est différent, parce qu'il fut un temps où on parlait de guérison. Voilà, c'est juste ça où je veux...
En psychiatrie, on n'a jamais parlé de guérison. Enfin, pour les troubles sévères, en fait. Pour ce qui est du côté de la psychose, en fait. Ni de rétablissement. C'est-à-dire que fut un temps, à l'époque où les médicaments ont émergé, on a crié victoire en disant « les gens rentrent chez eux, c'est super, ils sont plus hospitalisés ». Sauf que ça s'est très longtemps arrêté à ça. Aujourd'hui, on parle de rétablissement, donc on prend des traitements, bien sûr, mais il y a tout un processus ensuite pour retrouver une qualité de vie, en fait. Parce que le médicament, ça, c'est clairement ça, ça fait pas vivre, ça permet simplement d'être moins angoissé, quoi. Mais il y a tout un travail derrière, ensuite à faire, pour aller mieux, quoi. Et mon passage en tant que père aidant a été juste bénéfique tout du long, quoi. Ça m'a permis de mettre à contribution l'expérience que j'avais acquise dans mon établissement et aussi de, comment dire, de me prouver quelque chose à moi-même aussi. C'était personnel, quoi. Il y avait quand même une bonne part de personnel, quoi. Ouais. Où j'ai pu me dire, enfin j'ai pu voir jusqu'où je pouvais aller, et c'est pas fini, hein, mais pour le moment, voilà, j'ai dû mettre la pérédance en stand-by. Mais voilà, ouais. Enfin, en tout cas, ça a été une expérience vraiment très 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 chouette.
Qui t'a peut-être donné un peu plus d'empowerment. On va en parler. Et avant d'en parler, on écoute justement Ren Gilles qui parle de power.
Get it? Power. Kids don't play my shit, I never had a top 10. Maybe it's cause I sing about violence and depression. They say don't blame these kids, just focus on yourself, friend. Well, if they don't like what I'm doing now, then fuck them. Don't trip, I up the ante, learning licks like John Frusciante. Smoking spliffs and popping candy, idolizing Sid and Nancy. Woo! Rock and roll in my soul, bumping knacking cold. On the dole, fish and chips and games consoles. Council housed and violent flow. But life weren't sweet at home. Mum and dad took a trip and they split shalom. What will be, but me, I hate to see my mum alone. Late night crying, get so high to try to silence sounds of fighting. Through the walls I heard love dying, so I focused on my. That's what it was, I focused on my. Now let's go back, let's go back. These kids don't play my shit, I never had a gold plaque. My style is old school, but I swear this ain't a throwback. I put my visions into rhythms on a dope track. To understand the place I'm coming from, let's go back. When I was 16, I was a sick teen, I was a victim of my head. I was just 16, up in the kitchen, racking up lines till my nose bled. 16, in an affliction, in an addiction with my dread. I was just 16, I was quite sick then, I was a prick then, I was a pleb, but fuck it, we're all misguided individuals, life can suck it. My cup ain't half full, man, I'm filling up the whole bucket. I'll drink my tears so I can drown my sorrow. Sing like I might die tomorrow. Live bada 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 bada. Note for note, I go for broke on every single song I wrote. And every single song I write brings freedom to my weary mind. A healing that you'll only find inside an intricate design of kicks and snares and flat bass lines. I flip the script until I find my. What it is, I focus on my. Now run the track, run the track. Get it. Get it.
Power de Rangel, sorti en 2022, La puissance d'agir, dont on parle avec les amis de l'écho de la Réhab et Laurence autour de la paire et danse. Laurence, c'est toi qui a décidé, enfin qui a choisi ce titre, pourquoi ?
Parce que ça parle pas mal de quelque chose qu'on appelle l'empowerment en anglais et qu'on peut traduire en français de façon un peu approximative par pouvoir d'agir. L'idée à retenir, c'est qu'en gros, quand on a des troubles psychiques, pour pouvoir se rétablir, faut petit à petit retrouver du pouvoir sur sa vie. Et retrouver du pouvoir sur sa vie, ça passe par plein de choses et ça commence avant tout par apprendre des choses nouvelles, accroître ses capacités, renforcer ses forces, trouver de nouvelles ressources, retrouver confiance en soi, s'entourer de gens qui nous font du bien et qui nous appuient. Et ça passe aussi par retrouver du pouvoir dans les différents espaces de sa vie, dans le soin psychiatrique, de retrouver une place où on décide pour soi-même des choix qu'on fait pour nos soins, pour sa vie, et puis dans notre vie, dans les autres espaces de nos vies aussi. C'est un enjeu majeur, et il n'y a pas de rétablissement sans ça, en fait, sans cette reprise de pouvoir progressif sur sa vie. Et c'est aussi parce que Rennes a eu maille à partir avec la psychiatrie et les troubles psychiques, en fait, suite à une maladie de Lyme qui n'a pas été diagnostiquée pendant très longtemps et qui l'a amené à vivre des choses très difficiles. Et du coup, il en parle beaucoup dans ses chansons, donc c'est très riche, très instructif, et il est remonté à bloc contre les injustices dans ce domaine-là. Donc voilà, comme je suis fan de hip-hop, je plus sois. Ouais. Voilà.
Et nous plus soyons avec toi, peut-être. Power, empowerment, tu as donné le terme. Toi, tu fais partie d'une structure qui s'appelle Esper Pro.
Oui.
C'est un acronyme, justement, oui. Et qui met en lumière, on va dire, les piliers de la paire et danse. Espoir, soutien, plaidoyer, empowerment et responsabilité.
Responsabilisation.
Responsabilisation, oui, tu
as raison. On peut mettre l'un ou l'autre, mais nous, on préfère responsabilisation parce que c'est un processus. Voilà. Et oui, ce sont 5 principes qui ont été désignés comme les piliers du rétablissement suite à une recherche qui a été faite dans les années 2010 par une équipe de recherche sur le rétablissement, la recherche Emilia, ça s'appelait. Ils avaient identifié ces piliers du rétablissement. Et Esper Pro, quand l'association a été créée en 2016, oui, c'est ça, que je ne me trompe pas, a repris ces principes parce qu'ils sont vraiment des guides à la fois pour les médiateurs de santé pair qui vont sur le terrain, dans les services de soins, auprès des personnes en rétablissement, pour savoir comment accompagner ces personnes et sur quoi porter les efforts et l'attention. Et à la fois, c'est aussi un guide pour nous tous, pour être en vigilance sur nos propres parcours de rétablissement. C'est quand même une association qui est spécialisée dans la paire et danse professionnelle, la médiation en santé pair, comme on l'appelle dans cet asso. Et c'est une des rares en France à offrir notamment une plateforme d'emploi qui permet à des services de soins de trouver une structure qui, pour eux, recrute, emploie, accompagne et aide à intégrer dans des services de soins des paires aidants. C'est une association qui est quasiment entièrement gérée et portée par des personnes qui ont des troubles psychiques. Et c'est important de le souligner. C'est-à-dire que là, pour le coup, en termes d'empowerment, on est quand même bien, je pense. Ouais. Voilà.
C'est une association à Marseille.
Alors, c'est une association dont le siège est à Marseille, mais qui a des antennes dans d'autres départements. Et moi, je suis en fait la référente de l'antenne Ardèche-Drôme. Et je suis ici en Ardèche et je m'occupe en fait de développer l'antenne, c'est-à-dire en fait d'aider la paire et danse à se développer sur le territoire. Et je suis manager des paires et danse, des médiateurs de santé paire et médiatrices de santé paire, qui sont par exemple intégrés dans des services de soins, par exemple à Sainte-Marie, on en a à Privas, on en a à Montélimar. Je les encadre, je les suis. Je suis également formatrice pour l'association. J'interviens en national pour des formations au rétablissement ou à l'intégration, etc., de médiateurs dans des services de soins et auprès de professionnels et auprès de pères aidants. Et en fait, on essaye d'accompagner autant les pères aidants que les équipes d'accueil. Donc c'est comme ça que je connais Agnès, par exemple. C'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe de l'écho de la Réhab. C'est comme ça que j'ai rencontré Kevin, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer.
Et c'est comme ça qu'on a connu Dominique, qui aussi est père aidant à Rebond et la Villa Sophie à Sainte-Marie.
L'écho de la Réhab, c'est bientôt fini. Une dernière chose, peut-être un dernier mot, mais un seul mot pour chacun, enfin, si vous voulez bien. Pour vous, la paire aidance, ce qu'il y a de plus important dans la paire aidance, ce serait quoi? Je ne sais pas qui veut commencer.
Ce serait de... Ben pour moi, ce serait de... Eh ben de savoir que... Ben qu'on est porteur de beaucoup de choses et vecteur de beaucoup de choses pour la réinsertion et la réhabilitation.
Mmh. Ouais. Kevin, est-ce que...
Non, je sais pas quoi dire.
Eh bien, on passe son tour et ça revient.
Peut-être on peut souligner que la paire aidance, c'est un accélérateur des processus de rétablissement. En fait, on constate que là où il y a des paires aidants, les gens ils rentrent plus facilement dans une démarche de rétablissement, ils la construisent plus aisément de façon propre à eux. Hein, ça augmente l'efficacité des soins parce que ça permet aux gens de se les approprier d'une façon plus efficace pour eux.
Mmh. Ben merci. Est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot? Sinon,
ça renforce l'alliance thérapeutique
et l'amitié
aussi, très importante.
Voilà. L'entraide mutuelle.
Allons-y. Merci beaucoup à tous, Sylvie, Agnès, Jérémy, Kevin et Laurence, d'être venus ici dans cette onde curieuse spéciale Écho de la Réhab, donc, qui sera à retrouver une fois tous les deux mois, les lundis, avec vous, avec à chaque fois un nouvel invité. Merci à vous, auditrices, auditeurs, de nous suivre. Vous pouvez rester à l'écoute de Fréquence 7, puisqu'à 13h, vous retrouvez Sam Travail, à 15h, le Telex, à 16h, L'Imaginoire, à 17h, la rediffusion de cette onde curieuse, mais que vous pourrez après, et bien sûr, comme toutes les émissions, retrouver en replay et en téléchargement sur notre site internet, fréquence7.net, un nouveau site internet, je ne sais pas, peut-être que vous avez été en vacances pendant deux mois et vous ne le savez pas, mais il y a un nouveau site internet de Fréquence 7, à 18h, Solidaire, d'abord à 18h45, Central Park, à 19h, Tu danses, et à 21h, Hexagon Jazz. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission et les 3 minutes en plus. À bientôt, ciao.
Merci de nous avoir reçus.
Merci.
Merci de nous avoir reçus sur ce plateau et à très bientôt.